VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Dakar, 18h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. On commence par la RDC. Revirement des autorités de Kinshasa ce mercredi avec l'annonce d'une enquête suite à la diffusion d'une vidéo mettant en cause des soldats congolais dans un massacre. Les détails avec Eric Maniraquiza.
À la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo atroce, Kinshasa affirme avoir envoyé une commission conduite par des hauts magistrats militaires. Il doit vérifier ces allégations de violation grave des droits de l'homme dans le village de Mwanza Lomba, au Kasaï oriental. Selon le gouvernement, cette commission d'enquête a déjà procédé à un certain nombre d'interpellations et a lancé un appel à témoins pour recueillir toute information supplémentaire. Samedi, une vidéo montrant des hommes en uniforme tirés sur des villageois non armés était devenue virale sur le net. Le gouvernement avait qualifié ces images de montage grossier, puis a réitéré lundi son refus catégorique d'ouvrir une enquête. Les États-Unis, la France, les Nations Unies et l'Union européenne exigeaient que la lumière soit faite sur ces crimes présumés que semble révéler cette vidéo. Situé dans le centre du pays, le Kasaï est le théâtre depuis septembre 2016 d'une rébellion suite à la mort pendant une opération militaire de Kamuina Nsapu, un chef coutumier. Les violences ont fait au moins 200 morts.
RDC toujours, le mouvement du 23 mars, le M23, représente une menace actuelle dans le pays. C'est ce qu'affirme l'ONU après des rumeurs de retour dans le Nord Kivu d'ex-combattants de cette rébellion défaite en 2013 par l'armée congolaise. RCA, la MINUSCA, la mission de l'ONU en RCA, confirme avoir obtenu le départ de la ville de Bambari dans le centre du pays du chef de guerre Aline Daras, considéré comme l'un des responsables des sanglants affrontements entre deux factions rivales de l'ex-rébellion Séléka dans la région. Le chef milicien de l'Unité pour la paix en Centrafrique, UPC, Aline Daras vient de quitter la ville après avoir signé une déclaration à la suite de discussions menées par la MINUSCA, a déclaré le porte-parole de la mission onusienne Vladimir Monteiro lors de sa conférence de presse hebdomadaire ce mercredi. Nous maintenons la pression sur lui pour qu'il ne constitue pas un danger pour les populations civiles dans une autre région, a souligné M. Monteiro. Rappelons que le Front populaire pour la renaissance de Centrafrique, FPRC de Noureddine Adam, et l'UPC d'Aline Daras s'affrontent depuis début février dans le centre du pays. Il s'agit de deux factions rivales issues de l'éclatement de la coalition Séléka. Afrique du Sud, un tribunal sud-africain s'est prononcé aujourd'hui contre la décision du gouvernement de se retirer de la Cour pénale internationale au motif que le Parlement du Cap n'avait pas été consulté au préalable. Les précisions de Claire Morin-Gibourg.
La haute cour de Pretoria, saisie par l'opposition, s'est prononcée. La lettre de retrait de la CPI, envoyée par les autorités sud-africaines en octobre dernier à l'ONU, est inconstitutionnelle et invalide. Pour être légale, cette lettre aurait dû être précédée d'une approbation du Parlement. En conséquence, la Haute Cour a ordonné au gouvernement de révoquer sur le champ cette notice de retrait. En octobre 2016, le ministre sud-africain de la Justice, Mike Masuta, avait accusé la CPI de préférer de toute évidence viser des dirigeants en Afrique. Après une vive polémique déclenchée par le refus d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir, malgré un mandat d'arrêt de la CPI, l'Afrique du Sud a décidé le 21 octobre dernier de se retirer de la Cour pénale internationale. La CPI s'est aussi attirée les foudres de l'Union africaine, qu'il accuse de s'acharner sur les leaders africains.
Somalie, le nouveau président du pays, Mohamed Abdoulaye Mohamed, a été investi ce mercredi à l'aéroport de Mogadiscio, la capitale, sous haute sécurité, pour éviter une attaque des islamistes Shebab qui ont menacé de lui mener une guerre sans merci. Les détails avec Nathalie Barge.
Le nouveau président somalien s'est attaché à tempérer les attentes de ses concitoyens, prévenant que sa marge de manœuvre sera limitée face à l'ampleur des défis qui l'attendent, assurant toutefois qu'il ferait de son mieux au plan sécuritaire. « J'aimerais régler tous les problèmes lors des 4 prochaines années, mais ça va être difficile car tous ces problèmes ont été créés par 20 années de conflits et de sécheresse », a déclaré Mohamed Abdoulaye Mohamed, qui a aussi invité les militants Al-Shabaab à déposer les armes. Si vous refusez de vous rendre, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne pourrez pas tenir devant 12 millions de Somaliens unis. Vous avez tué de nombreux Somaliens innocents et détruit leurs richesses. Vous devez cesser de faire le mal. Je vous demande de venir participer au développement de votre pays, a déclaré M. Abdoulaye en présence des présidents djiboutiens Ismaël Omar Guelleh et kényan Uhuru Kenyatta.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Un nouveau chiffre effarant sur l'insécurité alimentaire en Afrique. Plus de 7 millions de personnes sont menacées de famine dans le nord-est du Nigeria et dans le bassin du lac Tchad. Selon les Nations Unies, c'est le plus grand nombre, le plus grand groupe de personnes affamées dans le monde. Jacques Aristide.
La conférence internationale des donateurs qui doit se tenir ce vendredi à Oslo vise à recueillir quelque 1,5 milliard de dollars pour faire face aux besoins humanitaires de la région cette année. L'insécurité alimentaire demeure le plus gros problème dans cette partie de l'Afrique, précise le coordinateur humanitaire des Nations Unies pour le Sahel. Les habitants sont au bord de la famine et ont à peine un repas par jour, ajoute Toby Lanza. Selon les Nations Unies, 10,7 millions de personnes, soit 2 habitants sur 3 de la région, ont besoin d'une aide humanitaire, dont 500 000 d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent des formes les plus graves de malnutrition. La région est en proie depuis 7 ans à une insurrection des islamistes nigérians de Boko Haram qui ont tué dans les 15 000 personnes et provoqué l'exode de plus de 2 millions d'habitants.
Amnesty International dresse un tableau sombre sur la situation des droits de l'homme dans le monde en 2016. Coup de projecteur dans ce domaine en Afrique avec Samira Daoud, directrice régionale adjointe d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Précisément en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, nous avons vécu une année où des gouvernements ont montré une réelle volonté de réprimer de manière assez régulière et assez systématique les différentes formes de liberté, que ce soit liberté d'expression, liberté de manifestation, etc. Y compris dans des pays qui sont considérés comme des pays plutôt démocratiques ou en tout cas qui ont montré des progrès et des alternances politiques relativement pacifiques. Dans ces pays, dans quasiment chaque pays de la région, nous avons vu des manifestations qui ont été interdites en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, etc., ou qui ont été réprimées avec parfois des morts. Le Burundi, évidemment, avec la situation extrême qui a prévalu suite aux tensions qui entouraient la question du troisième mandat, une répression féroce qui s'est abattue sur l'opposition, sur la société civile et sur les journalistes également, et malheureusement une situation extrêmement tendue avec par ailleurs le Burundi qui s'est retiré de la CPI, donc avec des chances très minces pour les Burundais qui ont été victimes des violations de pouvoir obtenir justice un jour.
Samira Daoud d'Amnesty International. Les nouvelles mesures américaines sur l'immigration maintenant un véritable casse-tête pour les ambassades africaines aux États-Unis. Dans 2 directives, le secrétaire américain à la sécurité intérieure John Kelly a ordonné aux agents des douanes et de l'immigration d'expulser aussi rapidement que possible tous les clandestins qu'ils trouveraient dans l'exercice de leurs fonctions. Une note qui inquiète dans les milieux d'immigrés africains. Écoutez la réaction de Tiena Koulibaly, l'ambassadeur du Mali, à Washington.
L'administration américaine aujourd'hui est dans une phase de transition, c'est-à-dire que ceux avec qui nous parlons, aussi bien au département d'État qu'au ministère du Homeland Security, que j'appelle ministère de l'Intérieur, ce sont ces gens-là qui gèrent les déportations. Les cas américains que nous rencontrons à ces niveaux-là sont eux-mêmes un peu dans l'incertitude. Voilà. Et donc, eux et nous discutons de notre volonté à nous qu'ils tolèrent nos concitoyens et leur totale incapacité vis-à-vis des nouvelles mesures venant des nouvelles autorités qu'eux-mêmes découvrent en même temps que nous tous. Alors donc, nous sommes vraiment dans une phase d'expectative pour tout le monde et j'espère seulement que l'Amérique est aussi le pays de la loi, c'est le pays du règne de la loi, c'est le pays du règne de la tolérance. Donc nous croisons les doigts, nous attendons, mais évidemment nous sommes très 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 inquiet pour nos populations.
Tiena Koulibaly, l'ambassadeur du Mali à Washington. Et pour terminer, crise libyenne, l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, a salué aujourd'hui à Tunis l'implication des trois pays voisins de la Libye, Tunisie, Algérie et l'Égypte, pour trouver une solution politique à la crise que traverse la Libye depuis 6 ans. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.